Vous écoutez
RMC.
L'After Foot intégral Coupe du Monde avec Julien Laurence, Maxime Chano, Walid Acharchour. L'équipe de France éliminée en demi-finale de la Coupe du Monde par l'Espagne 2-0. Et c'est un after animé parce qu'évidemment on est très frustrés. Notre rêve s'est envolé. Et c'est la faute de l'Espagne, mais c'est amplement mérité. On est dans l'évaluation. Et je voudrais parler un peu des Espagnols. On a beaucoup parlé de Rodri, de Yamal, de Fabian, un peu d'Unai Simon. Et pas trop de Dani Olmo, qui fait une Coupe du Monde exceptionnelle, qui est un très, très, très grand joueur. Et qui, dans ce rôle de 10 de l'équipe espagnole, se régale. Il est, on a l'impression que De La Fuente l'a mis dans les meilleures conditions pour ses qualités.
Ouais, alors déjà, il y a deux ans, il avait déjà été très bon à l'Euro, d'ailleurs contre nous aussi en demi-finale. Moi, je trouve que c'est un joueur génial, alors qu'il parfois n'est même pas titulaire au Barça, parce que c'est quand même un style particulier un petit peu. Mais quand tu le vois aujourd'hui, quand il est dans cet état d'esprit-là, quand il joue dans une équipe pareille, qui contrôle autant. C'est un régal à voir jouer, sincèrement. Et c'est toujours les bons mouvements, c'est toujours les bons déplacements, c'est toujours le bon choix, la bonne touche de balle, la déviation qu'il faut. Quand il faut jouer en une touche, c'est une touche. Quand il faut jouer en deux touches, c'est deux touches. Quand il faut faire un petit crochet, il fait le crochet. Moi, je trouve ça fantastique à voir. La talonnade pour Lamine Yamal sur l'occasion de Fabian Ruiz pour le 1-2.
Exceptionnel.
Incroyable. Moi, c'est cette intelligence de jeu-là que j'adore et que je trouve assez fascinant dans un groupe, dans une équipe espagnole où tu as des joueurs très importants et lui, je trouve qu'on n'en parle jamais assez.
Bah, déjà, il avait changé. On le précise aussi, n'est pas non plus titulaire à l'Atlético. Hein. Ouais. C'est quand même fou, tu as deux joueurs dans cette équipe majeure.
Baena, c'est plus par défaut, il joue là parce que Nico,
oui, tu vois, on est d'accord. Fit, sinon, on est d'accord, mais le choix est fait.
Oui, c'est vrai.
C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de prendre un mec qui est remplaçant à un autre poste en plus dans un club qui domine même pas son championnat.
Et ça montre que malgré le réservoir qui n'est pas à la hauteur de l'équipe de France, mais le projet de jeu, le profil, est toujours au centre de cette équipe espagnole.
Aujourd'hui, si vous devez choisir pour votre équipe entre Dani Olmo et Michael Olise, vous prenez qui?
Bah après, on va dire Olise. En termes de Coupe du Monde ou pas? Ça dépend.
Tout dépend de l'équipe.
Une fois que tu as vu ce que tu as vu ce soir.
Tout dépend de l'équipe.
Non, mais bien sûr.
Parce que Dani Olmo est un joueur irrégulier avec le Barça de par ses blessures et de par ses performances. Et parfois, tu peux t'arracher les cheveux aussi sur son efficacité. Mais par contre, avec l'Espagne, c'est un cheat code. Avec l'Espagne, c'est un cheat code.
Dani Olmo
un joueur
est beaucoup moins polyvalent.
Et je sais pas si vous vous rappelez, mais contre l'Allemagne, Pedri s'était blessé en quart de finale à l'Euro 2024. Et c'est lui qui fait quart de finale, demi-finale, finale. Et c'est un joueur qui est très important dans le sprint final pour aller chercher l'Euro. Et là, il met Pedri sur le banc, pas que pour Fabian Ruiz, parce que aussi Pedri peut pas être le numéro 10 que Colmo représente en dans cette équipe d'Espagne, et il a des gestes fabuleux. Pour moi, il a les meilleures prises de balle du monde.
La première
touche qu'il a dans la surface de réparation, c'est impossible. Derrière, tu peux pas le toucher
Dani Olmo est beaucoup moins polyvalent qu'un Michael Olise, qui peut évidemment jouer sur le côté, qui peut aussi jouer dans l'axe. C'est vrai que c'est plus un joueur old school un peu, hein. C'est pour ça aussi avec le Barça parfois c'est compliqué de le positionner, parce qu'il faut absolument qu'il soit dans une équipe de possession, et c'est exactement le cas avec l'Espagne, et surtout qu'il puisse avoir justement cette faculté à pouvoir jouer entre les lignes. Là, je suis d'accord avec vous, c'est que techniquement c'est exceptionnel, honnêtement c'est élégant, il est incroyable. Bon, il manque peut-être un petit peu de vitesse, mais d'un point de vue général, je trouve qu'il est très très intéressant et très très important pour l'équilibre notamment offensif de cette équipe espagnole. Et pour revenir par rapport au réservoir, par rapport justement, on parlait de la profondeur de banc, quand tu regardes quand même ce que l'Espagne est capable de faire rentrer, t'as encore Merino, t'as Ferran Torres, Nico Williams, Pedri. Bon, alors on va pas parler du gardien, mais t'as Raya quand même, hein, qui a été exceptionnel avec Arsenal. Enfin, je veux dire, t'as quand même un réservoir d'un point de vue qualitatif qui est quand même exceptionnel, hein, du côté de l'Espagne.
Mais il n'y a pas de Olmo. Et ce que j'aime chez Olmo aussi, parce qu'on parle toujours des stades, beaucoup de stades, de tout ce qu'on veut, ce que Ryan Cherki dit souvent, que lui par exemple, c'est pas un joueur de stade. Olmo, c'est pas un joueur de stade. Là, sur cette Coupe du Monde, il y a deux passes d'ess. Il a un tir cadré en 7 matchs.
Il fait jouer les autres.
Il a un tir cadré en 7 matchs. Et je vous dis pour l'Espagne, il a un tir cadré en 7 matchs.
Après, pour moi,
parce que son jeu, c'est pas les stades.
Pour moi, l'Espagne gagne le match avec les deux latéraux et les deux au milieu de terrain.
Oui, d'accord.
Est-ce que Pedro Porro n'est pas un joueur totalement sous-coté?
Ah non, mais peut-être les performances qu'il fait là,
tout le temps en Angleterre. Le fait qu'il joue à Tottenham peut-être aussi.
Moi, je le vois tout le temps en Angleterre. Ça, crois-moi, c'est parfois plus compliqué que ce qu'on a vu aujourd'hui.
D'accord.
C'est-à-dire moins bon.
Ouais, offensivement, parce que lui, à la base, c'est un piston droit, en fait.
C'est comme tous les joueurs qui se font dans le collectif. On va pas revenir sur l'équipe de France, mais un Ben Pavard à l'époque qui est champion du monde 2018. c'était pas un grand joueur. On l'a vu d'ailleurs sur la suite de sa carrière. Une fois qu'on lui donne un peu des responsabilités dans un grand club, ça devient difficile. Donc en fait, Pedro Porro aujourd'hui, il est facilité par le collectif très bien huilé de cette Test Espagne. Mais c'est la même chose avec Laporte. Laporte, c'est un bon joueur. Mais enfin, objectivement, la compétition qu'il fait, est-ce qu'on n'est pas surpris d'avoir un Laporte à ce niveau-là? Mais c'est parce qu'aujourd'hui, voilà, t'as un collectif qui est beaucoup plus fort et qui intègre les individualités de cette manière. Et c'est la raison pour laquelle tu vois un Pedro Porro à ce niveau-là.
Mais tu vois, Porro, par exemple. Vas-y.
Bah non, parce que Cucu Orella, top recrue du Real Madrid, il a encore fait un super match. Rodri, sur la fin de compétition, il va jouer le titre honorifique de MVP du tournoi s'il la soulève, parce que c'est le meilleur espagnol pour moi. Fabian Ruiz, encore une fois, après 2024, où faut rappeler que ça fait 3 mois qu'il n'avait pas joué, Fabian Ruiz avec le PSG. Il a eu une deuxième partie de saison très compliquée, comme Rodri. Les mecs, ils arrivent au meilleur niveau, au meilleur moment. On n'en a pas parlé, mais Cubarsí Laporte, c'est du Moi, le début du tournoi, quand on m'a dit Cubarsí Laporte, j'avais des gros doutes. Cubarsí, il sortait du Barça avec des cartons rouges contre l'Atlético. Laporte, il a été blessé cette saison avec Bilbao. Il a pas tout joué.
Ouais, il a pas été bon. Hein.
Mais sincèrement, les perfs sont très étonnantes des Espagnols. Hein. Si tu regardes les saisons que les mecs ont fait avec les blessures, avec les irrégularités et leur statut en club, et ce qu'ils font avec l'Espagne, c'est hors du commun. C'est exceptionnel.
Mais parce que c'est huilé. Collectif, encore une fois, prend le dessus sur l'individualité. C'est le football moderne, c'est tout.
La seule chose que Pedro Porro rate aujourd'hui, dans la profondeur, c'est la seule fois où Barcola prend le dessus. Rappelle-toi, c'est le tacle qui rate. Ensuite, Barcola passe en sautant par-dessus. Il centre et le ballon est contré par Cubarsí. Il va en corner. C'est le premier corner pour l'équipe de France. Et le seul regret, un des autres regrets qu'on a par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est finalement t'as mis Barcola pour justement exploiter la profondeur. Parce que Porro, c'est là où il est en galère. Lui, la profondeur, la trajectoire, il est à la rue totale. Alors pourtant, c'est un joueur rapide. Il est pris à ce moment-là. Et tu le refais plus une seule fois, pendant le temps que Barcola est contre Porro.
Et après, on n'en a pas beaucoup parlé, mais l'entrée de Doué et Cata aussi. Hein.
Ah, Cata.
Doué n'a absolument rien exploité. Alors, est-ce que maintenant l'Espagne sera favorite quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat de la demi entre l'Angleterre et l'Argentine?
Ouais, tous les jours.
Tous les jours. Après, ça sera peut-être des matchs différents, hein, parce que l'Espagne, c'est quand même poussif contre la Belgique, poussif contre le Portugal. Alors, est-ce que finalement le match contre l'équipe de France a pas un peu décuplé les forces espagnoles? Et s'il devait jouer contre l'Angleterre, par exemple, qui est pour moi la meilleure équipe entre l'Angleterre et l'Argentine,
le match, ce sera l'Angleterre.
Tu dis que c'est des matchs poussifs. Moi, j'ai trouvé que contre le Portugal ou la Belgique, en fait, c'était implacable. C'est-à-dire que ça allait arriver à un moment. Moi, alors, on regarde pas les matchs de la même manière parce qu'il y a pas l'intensité émotionnelle qu'on met dans les matchs de l'équipe de France. Mais moi, je regardais ces matchs. Je te jure, Maxime, j'ai pas été inquiet pour eux.
Non, pas inquiet, mais t'es
la moindre
seconde.
La Belgique, ils ont fait le max avec des miettes. La Belgique, pour moi, ils se sont fait massacrer par l'Espagne comme nous. Sauf qu'ils ont réussi un truc que nous n'avons pas réussi.
Ils ont créé des occasions.
C'est qu'ils les ont un peu plus agressés et que De Ketelaere a fait un grand match et qu'avec une miette, il aurait mis un but de la tête. Mais sinon, il n'y a pas un monde dans lequel la Belgique élimine l'Espagne.
En tout cas, ils se sont créés des occasions, ce qui n'a pas été forcément le cas de l'équipe de France. C'est la raison pour laquelle je dis peut-être que cette équipe de France, alors de 1, a été asphyxiée, a été bien surdominée par cette Espagne, mais aussi peut-être parce que l'Espagne avait à cœur de battre cette équipe de France qui était considérée comme la deuxième favorite après eux.
Si on parle du match Angleterre-Argentine, on voit une équipe qui monte en puissance. L'Angleterre, on voit une équipe qui a l'air à bout de souffle. Alors après, il faut toujours se méfier.
Moi, je pense que l'Espagne, ils détruisent l'Argentine en finale.
Je pense que n'importe qui, France ou Espagne, aurait gagné l'Argentine assez largement. On n'aura jamais la réponse pour la France.
Sûr.
Il faut toujours se méfier.
Oui, c'est vrai.
L'impression, on a la preuve ce soir.
Mais moi, je pense que l'Argentine ne peut pas récupérer le ballon contre l'Espagne.
Ouais.
C'est impossible. Ils ont ni les jambes, ni la culture.
Ils défendent trop mal.
Et puis surtout, il n'y a aucun pressing, il n'y a pas d'intensité chez les Argentins du tout. Les Anglais seraient sûrement plus capables de mettre de l'intensité, même si je pense qu'ils vont les attendre en bloc médian si c'est une finale Angleterre-Espagne, et qui vont avoir ensuite l'impact physique que nous n'avons pas eu aujourd'hui pour gêner les transmissions Rodri, Dani Olmo, Fabian, Rodri, même sur les côtés, parce que là les Anglais seront très forts là-dessus, ça c'est sûr. Je pense que Tourelle aura lui un vrai plan A, un vrai plan B, un vrai plan C, avec aussi une belle profondeur de banc. Je pense que les Anglais peuvent les gêner, mais je vois quand même l'Espagne.
Et puis les Argentins, j'insiste un petit peu dessus, mais quand tu regardes un petit peu leur parcours, Cap-Vert, Égypte, Suisse, Jordanie, ils ont encaissé contre le Cap-Vert, ils ont encaissé contre la Suisse et la Jordanie. Voilà, moi les Argentins, pour moi ils arrivent à bout de souffle physiquement, on l'a déjà dit, avec des mecs qui ont plus de la trentaine. Tagliafico, Paredes.
Et puis les statuts dont parlait Walid, c'est encore pire là pour Scaloni. Hein.
Oui, mais ça avéré, c'est assumé. En fait, on parlait surtout d'un point de vue athlétique. C'est vrai que l'Espagne a étouffé l'équipe de France. On imagine contre les milieux vieillissants de l'Argentine. Après, ils ont quelque chose qui est rationnel. Déjà, demain, ils ont Messi. Et puis surtout, ils ont une grinta, ils ont une mentalité.
Ouais, mais les Anglais ont montré leur mentalité aussi. Et les Anglais ont 24 heures de plus pour récupérer. Enfin, les Espagnols auront 24 heures de plus pour récupérer avant la finale que l'Espagne ou l'Argentine.